RCF. La Providence a un caractère mystérieux qui ne se limite pas à un simple pilotage, mais qui poursuit son œuvre précisément dans chaque être, qui se distingue individuellement de tous les autres et habite dans cette totalité assez déroutante que nous appelons monde. C'est avec ces mots, à peu près ces mots, que le théologien Urs von Balthasar évoquait l'action de la Providence pour mettre en lumière le lien profond qui unit chaque être vivant, et plus spécialement chaque être humain, à un bien qui nous appelle à être ce que nous sommes. En quel sens une pensée philosophique du bien ou de la Providence est-elle indispensable pour nous aujourd'hui ? Pour retrouver notre place, pour donner un sens à l'agir, comment pouvons-nous ne pas nous résigner, mais au contraire continuer à développer ce qu'il y a de meilleur, à respecter en l'homme son humanité, qui n'est hélas pas toujours respectée. Pour répondre à ces questions, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui, dans cette deuxième émission, Rémy Brague. Bonjour Rémy Brague.
Oui, bonjour.
Alors,
bonjour.
Oui, vous êtes professeur émérite de philosophie médiévale à la Sorbonne, membre de l'Institut. Vous êtes lauréat du Grand Prix catholique de littérature 2024 pour votre livre « À chacun ses besoins, petit traité d'économie divine » paru aux éditions Flammarion en 2023 et pour l'ensemble de votre œuvre. Dans cette deuxième émission, j'aimerais que nous nous plongions plus précisément dans cette problématique de la Providence. J'évoquais la méditation de cet immense théologien Urs von Balthasar. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette idée, cette évocation de la Providence chez Balthasar, peut-être pour commencer ?
Je ne me souvenais pas du passage de l'œuvre de Balthasar, que j'ai beaucoup lu, et j'ai eu même le bonheur de connaître le bonhomme, qui était un très grand bonhomme, enfin, un personnage à la fois d'une culture prodigieuse, impensable, et d'une parfaite humilité. C'était le contraire même du ramenard, si vous voulez, type humain que je déteste personnellement. Enfin, j'espère y échapper, mais enfin bon, on n'est pas jamais très sûr de ça. Bon. Et il est tout à fait possible, même si je ne saurais vous dire exactement comment et pourquoi, que sa pensée m'est influencée sur ce point. Bon, qu'elle m'est influencée sur d'autres points, c'est absolument manifeste. Enfin, c'est un théologien que j'admirais immensément. Mais sur ce point, je ne saurais pas trop quel est le point de passage, mais vous savez, une culture, enfin, ma propre culture en particulier, c'est fait de ce que l'on a oublié. Hein. Enfin, vous savez ce que disait Georges Duhamel, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Et effectivement, il y a des quantités de pensées, de connaissances qui ne sont pas de nous, qui ne viennent pas de nous, mais qui se sont lentement déposées, sédimentées dans notre esprit. Nous avons oublié que ça vient d'autrui et nous croyons que c'est à nous. Alors bon, faisons un petit peu preuve d'humilité si possible.
Et dans cette pensée de Balthasar, oui. Alors j'ai beaucoup apprécié personnellement ce rejet d'une certaine vision de la Providence. Ça n'est pas simplement un pilotage. Alors qu'est-ce que vous pourriez en dire ?
Surtout, lorsque l'on parle de la Providence, maintenant, on n'en parle plus tellement, mais s'il y a des expressions comme l'État-providence, des choses comme ça, ou je parle, nous nous sommes rencontrés de manière providentielle, la plupart du temps, on se représente la Providence comme une instance extérieure à nous, et une instance qui est là pour la plupart du temps réparer les bêtises que nous avons faites. Enfin, j'ai pris l'image, si vous voulez, de celui qui pratique du bungee, vous savez, le saut à l'élastique, et qui n'aurait pas fait tellement attention à la solidité de l'élastique, ou qui aurait oublié de l'attacher. et qui se dirait bah, « de toute façon, Dieu va me tendre un parachute au moment où je serai sur le point de m'écraser, ou alors il va installer un matelas là où il faut, ou une charrette de foin, comme lorsque Tintin tombe de l'avion qui devait le mener vers Clos, en Sildavie. » Bon, je fais référence, là, bien entendu, à des données culturelles de base. Mmh. Eh bien, ce que j'essaye de montrer, c'est que la Providence, d'une certaine manière, intervient déjà avant. C'est celle qui nous fait nous assurer de ce que l'élastique est bien attaché. Ça s'appelle de la prudence en bon français. Ben, il est intéressant de noter que prudence et providence sont en fait les doublets d'un même mot. Ce sont deux descendants d'un mot latin, providentia. Si vous le prononcez vite, providentia, ça donne prudentia. Le jeu de mots existait d'ailleurs dans la Rome antique, il est déjà chez Cicéron. Bon. Bah, la providence, c'est déjà la prudence. Alors ça, c'est la prudence chez l'homme, mais chez des créatures que l'on peut imaginer de niveau inférieur, en tout cas des créatures plus simples, moins complexes, moins tourmentées, comme les plantes et les animaux, il y a déjà une œuvre de la providence, en ce sens que la plante est capable d'atteindre son bien, qui est de croître et de se reproduire, même si elle reste, si j'ose dire, plantée là. L'animal, lui, est capable d'atteindre son bien en se déplaçant, voire en mettant en œuvre des stratégies extraordinairement compliquées. Quand on pense à la façon dont certains insectes se reproduisent à travers tout un cycle, en passant le tube digestif de certains animaux et se retrouvant sur la bouse de vache. Et bon, comme ça, tout un parcours extraordinairement compliqué. Bon, on peut déjà appeler ça de la providence. Et c'est ce que fait Thomas d'Aquin, dont je m'inspire beaucoup dans ce petit bouquin. Et alors dans notre cas, bien entendu, ça prend la forme du choix libre.
Et alors aujourd'hui, nous avons une vision un petit peu appauvri, voire caricatural, et comme vous l'avez dit, peut-être que ce mot est même tombé un peu en désuétude, de la providence. Je fais ce qui me passe par la tête, vous résumez ainsi des choses, ou n'importe quoi, et puis Dieu pourvoira, voilà cette vision un peu caricaturale, il arrangera tout. Alors, pourquoi parler de la providence aujourd'hui? Quel a été le point de départ, en fait? Quels sont les enjeux pour vous de cette réflexion?
Ah, ça c'est une question difficile, d'abord parce qu'on ne sait jamais trop pourquoi on écrit, on ne sait jamais trop pourquoi on agit vraiment, on ne peut peut-être le découvrir partiellement qu'après coup. J'ai été un petit peu déjà agacé par l'usage que l'on fait de ce mot, et justement comme le geste par lequel un créateur bienveillant réparerait au dernier moment les bêtises que nous faisons. J'en donne deux exemples dans mon petit bouquin. Tout se passe comme si nous nous imaginions que des petits lutins sympathiques vont réparer la nuit, quand nous dormons, les dégâts que nous infligeons à la planète. Bon. Alors ça, c'est l'écologie, n'est-ce pas?
Mais est-ce que vous voulez dire que c'est comme un reste de paganisme, ou c'est une forme d'ignorance et d'irresponsabilité? Ou bien est-ce que c'est quelque chose aussi qui peut avoir, marqué une certaine étape du christianisme? Comment vous...
C'est surtout une forme de bêtise qui existe un petit peu depuis l'origine, même non, pas un petit peu, qui existe beaucoup depuis l'origine du monde, et que dont nous ne sommes jamais exempts. Nous devons toujours lutter sur notre front intérieur, si je puis dire, contre la bêtise, qui est la chose du monde la mieux partagée, comme Descartes n'aurait pas dit. Oui, nous avons tous quelque part cette vision, tout va s'arranger.
C'est une sorte de doxa et d'ignorance.
Soyez optimiste, terme que je ne supporte pas.
Mais il me semble que vous pointez aussi quelque chose qui tient à notre représentation, on pourrait dire, de la Providence. C'est-à-dire, et c'est ce qui fait la force de votre ouvrage, on oppose aujourd'hui l'idée d'une action divine et on va dire d'un autre côté une vision du monde très déterministe. Et vous montrez que finalement la Providence, elle est libératrice, que liberté et Providence sont tout à fait compatibles. Et donc c'est une vision ouverte, une vision aussi qui renouvelle notre rapport au présent qu'on peut trouver dans la foi chrétienne.
Écoutez, la providence chez l'homme non seulement passe par la liberté, mais elle coïncide d'une certaine manière avec cette liberté. Et Dieu nous donne, en nous donnant la liberté, qui est un des noms du Verbe. Hein, je rappelle que, c'est possible que un usage du mot logos, enfin, celui qu'on traduit par verbe au début du prologue, première verset du prologue de l'évangile de Jean, hein, au commencement était le verbe, bon, eh bien ça signifie aussi la liberté. Il y a un passage d'Aristote, toujours lui, qui dit ça assez clairement lorsqu'il distingue ce qu'il appelle les puissances sans logos et les puissances avec logos. Le feu a la puissance de brûler, bon, mais cette puissance n'a pas de logos. Et en conséquence, le feu est capable de brûler, mais il ne peut pas éteindre, il ne peut pas refroidir. En revanche, la liberté humaine, enfin, l'acte libre, peut faire une chose et son contraire. Le médecin possède la capacité de vous guérir, mais il possède également la capacité de vous empoisonner scientifiquement et de vous tuer.
Et nous découvrons par ailleurs aussi, je rebondis sur ce que vous venez de dire dans votre ouvrage, que cette idée de providence est très ancienne, qu'elle existait déjà dans le monde grec. Vous venez d'évoquer Aristote autour de la capacité d'agir de manière délibérée, on va dire, en ajustant le moyen à la fin. On arrive à concilier liberté et providence. La providence, ainsi, devient prudence. Être prudent, écrivez-vous, c'est répondre à la providence divine. Pourriez-vous nous expliquer le sens de cette affirmation ?
À condition, bien entendu, de ne pas prendre le mot prudence dans son sens simplement habituel, qui consiste à regarder devant soi quand on traverse la rue, bon, ou des choses de ce genre-là. Non, là, je prends prudence au sens où c'est devenu un concept philosophique, où ça traduit le grec phronesis dont se sert Aristote et qui signifie, disons, la sagesse pratique. Le fait de choisir une fin qui est bonne, de choisir le bien et de savoir mettre en œuvre les stratégies adéquates, les stratégies qui vont permettre de l'atteindre véritablement. Donc d'avoir le but, le bon but, si je puis dire, et les bons moyens de l'atteindre. Alors c'est évidemment beaucoup plus vaste que le fait de réfléchir avant d'agir ou de regarder devant soi. Bon. Et alors cette prudence, c'est la manière dont la liberté humaine peut s'orienter dans un monde où les choses ne sont pas toujours évidentes, où faire le bon choix ne va pas de soi, où l'instinct ne joue pas. Et c'est, à mon avis, très important de voir comment, à un certain moment, à un certain endroit de l'échelle des êtres, à savoir avec l'espèce humaine à laquelle nous avons part, l'instinct animal est relayé par la liberté. Ce qui est d'ailleurs un risque assez prodigieux, parce que l'instinct, bon, bah, il agit, comment dire, sans réfléchir, sans nous forcer à réfléchir, et il nous mène, ou il mène l'animal, bon, bah, à la protection de son propre individu, en le faisant manger, par exemple, manger et boire, éviter, je sais pas, le feu, éviter, bon, tout ce qui est dangereux. L'instinct est également chargé de veiller à la permanence de l'espèce à travers le désir sexuel. Hein, l'animal cherche un partenaire pour se reproduire. Bon, il assure de cette manière la perpétuité de l'espèce. En ce qui nous concerne, nous autres espèces humaines, bah, tout ceci passe par la liberté. Alors nous avons un instinct, nous avons des désirs sexuels, bien entendu. C'est très bien, ça sert justement à la perpétuation de l'espèce. Mais cette liberté implique également des risques. Nous pouvons faire les mauvais choix dans différents domaines, hein, pas seulement celui de la reproduction, mais aussi de notre propre carrière personnelle, si je puis dire. Hein. Nous pouvons prendre le mauvais embranchement à un moment donné.
Alors nous évoquons ce retour ou cette question de la providence, un peu disparue peut-être aujourd'hui, mais en philosophie en tout cas, et Rémi Brague nous invite à le penser. Un retour de la providence, nous le trouvons aussi sous la voix d'un jeune groupe irlandais, Villagers, la pleine ou l'entière foi dans la providence. Nous écoutons.
Fade. The road. Long, but I've got my good shoes on, and full faith in providence. There's none to dwell.
Dialogue, Sarah Brunel.
La providence doit donc agir sur la liberté en la libérant. Pourquoi parler d'une libération de la liberté selon une méditation que vous avez, je crois, dégagée à partir de Grégoire de Nice ?
Oui, effectivement, je risque la formule paradoxale en m'abritant derrière l'autorité de ce père de l'Église grecque du IVe siècle, et pour réfléchir sur la manière dont Dieu agit sur notre liberté, avec notre liberté, en la retournant, si je puis dire, de l'intérieur, sans lui imposer quoi que ce soit, mais justement en la portant, mais au contraire, pardon, en la portant à l'incandescence. J'explique dans mon livre que Dieu donne à chaque créature ce dont celle-ci a besoin, d'où mon titre, à chacun selon ses besoins, ce dont elle a besoin pour atteindre son but, atteindre son bien, et pour l'atteindre par ses propres moyens, sans que Dieu ait à intervenir d'une certaine manière.
Mais la question est alors de savoir comment savons-nous que nous pouvons l'atteindre et comment pouvons-nous l'atteindre, voilà. Est-ce que nous avons cette clairvoyance aussi ?
Ah ben, jusqu'à un certain point, oui, nous savons quel est notre bien. Saint Paul a dit ça très très bien d'une phrase que l'on a parfois tendance à comprendre comme l'expression d'une angoisse existentielle. Mais en fait, c'est la description de notre condition. Hein. Ça n'est pas son problème à lui, c'est le problème de l'espèce humaine, à savoir que nous savons très bien, quelque part, ce que nous devrions faire, mais que nous ne le faisons pas, nous n'y arrivons pas. Bon. Ça, c'est une expérience commune. Hein. Je sais que je devrais faire ça, mais bon, je n'y arrive pas. Et c'est là que Dieu peut intervenir. C'est là même qu'il est pourrait-on dire, d'une certaine manière, tenu d'intervenir, puisqu'il est celui qui veut notre bien par excellence, celui qui ne sait que donner, qui ne peut que donner, et qui ne donne que le bien. Il est obligé d'intervenir de cette manière parce que nous sommes alors à la suite d'un événement que la Bible appelle le péché originel, nous sommes devenus, nous avons été blessés, si je puis dire, nous avons été paralysés, et notre volonté reste en retrait par rapport à notre intelligence. Notre intelligence nous permet de savoir ce que nous devrions faire. Et puis notre volonté, elle ne fait pas comme l'intendance, elle ne suit pas. Elle ne suit pas et nous sommes incapables, sans l'intervention divine, ce qu'on appelle la grâce en matière dans le vocabulaire théologique, nous sommes incapables de faire ce dont nous savons très bien que nous devrions le faire.
Alors c'est donc compliqué, du côté de l'homme, vous évoquez oui. Saint Paul, mais c'est aussi, je dis peut-être naïvement, mais compliqué du point de vue de Dieu, c'est-à-dire que fait Dieu et comment nous pouvons le savoir. Je pense à des écrivains comme Léon Blois, comme Bernanos, en particulier le Bernanos des grands cimetières sous la lune, ce texte paru en 1938 où l'écrivain évoque les cruautés de la guerre civile en Espagne. Après avoir dénoncé le massacre des religieux à Majorque, Bernanos dénonce les violentes répressions des franquistes. Et ces textes de Bernanos sont d'une actualité brûlante. Il nous manque peut-être des Bernanos aujourd'hui, mais en tout cas, nous vivons dans une époque dans laquelle il y a des déplacements importants de population dans des conditions tragiques, comme en Méditerranée, un état inquiétant du monde, de guerres qui ont commencé et qui ne finissent pas. Comment peut-on dire que la Providence intervient ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, vous évoquez Léon Blois, qui pourrait nous faire penser que Dieu s'est retiré ? Enfin, je ne sais pas si je formule justement les choses.
Vous savez, Dieu frappe à la porte. On lui ouvre, on ne lui ouvre pas. Et lorsque un petit juif demande à son père « Où est Dieu ?» la réponse classique, c'est il est là où on le laisse entrer. Il est là où on veut bien de lui. Et le risque fantastique que Dieu a pris avec l'homme, c'est justement de le laisser chercher son bien et le trouver, s'il le peut, et le trouver en faisant ce dont il lui a dit qu'il était bien, qu'il était bon pour lui, et pas pour Dieu, il était bon pour l'homme de le faire. Alors si l'homme le fait, ça marche, s'il ne le fait pas, ça ne marche pas. Et les horreurs dont vous avez parlé, disparaîtraient si nous faisions ce que nous devrions faire et ce dont nous savons très bien que nous devrions le faire. Le problème étant que nous ne le faisons pas. Et le problème, justement, est de savoir pourquoi nous ne le faisons pas. La réponse chrétienne, c'est que notre liberté est viciée. Notre intellect est intact, en tout cas ça c'est la réponse catholique, dans certains courants protestants, on pense également que l'intelligence de l'homme est corrompue. Bon, le dogme catholique dit que notre intelligence est restée intacte, mais que notre volonté est paralysée, elle a perdu sa capacité d'agir vraiment, et d'agir jusqu'au bout, pas simplement rêver d'un paradis quelconque, ne pas s'abîmer dans la velléité de « ah, ça serait bien si », etc., mais de le faire vraiment, c'est une réalité qui existe depuis que, peut-être pas depuis que le monde est monde, mais enfin depuis que l'homme a pervertit sa propre liberté.
Et vous évoquez,
dans
votre livre, cette expression des évangiles, c'est certaines expressions, la parabole du semeur, de la vigne, des sarments, l'idée d'un Dieu chrétien comme semeur, la création, écrivez-vous, est le geste par lequel Dieu sème les germes qui se développeront chacun en leur temps. Cette image est porteuse d'espérance aussi.
Elle est porteuse. C'est une image qu'on trouve chez saint Augustin, par exemple, dans son commentaire de la Genèse, commentaire littéral de la Genèse. Alors, ça repose, bien entendu, enfin, pour les historiens de la philosophie, ça repose sur l'idée qui se trouve chez les stoïciens des ce qu'ils appelaient les raisons séminales, enfin les logiques, si je puis dire, qui sont les logiques de développement qui sont à l'intérieur de la création, même si toutes n'existent pas, hein, la natura è piena di infinite ragioni che non furono mai in esperienza, dit Léonard de Vinci. Bon, eh bien, là aussi, en fait, il y a des germes, donc, qui ne demandent qu'à pousser, si on les arrose, si on élimine les mauvaises herbes, si on fait ce qu'un bon jardinier doit faire. Alors bon, c'est la balle est dans notre camp. Hein. Dieu nous a donné, si je puis dire, j'ai commenté dans un, je ne sais plus trop dans quel bouquin, enfin, j'ai commenté le passage de saint Jean de la Croix, dans lequel il explique pourquoi on n'a pas à demander de révélation personnelle. Pourquoi moi, mystique lambda, je n'ai pas, enfin si j'étais mystique, ce qui n'est pas le cas, pourquoi je n'ai pas le droit de demander à Dieu, bah, écoute, montre-moi telle chose. Ben, sa réponse, c'est, pour citer l'expression de café-théâtre que j'ai déjà citée, j'ai déjà donné. Dieu a, d'une certaine manière, les poches vides. Il nous a donné, en Jésus-Christ, il s'est donné lui-même. Il n'a pas donné quelque chose d'autre que lui, il a donné lui-même. C'est ce qu'explique le dogme de la Trinité. Hein. Le Fils n'est pas simplement autre chose ou quelqu'un d'autre que le Père. Bon. C'est plus compliqué que ça. Et donc, Dieu n'a plus rien à nous donner. La balle est dans notre camp. Alors, c'est évidemment un risque fantastique, mais en même temps une dignité extraordinaire. Enfin, c'est nous qui devons y arriver. Avec l'aide de Dieu, sans l'aide de Dieu, nous ne pourrions pas y arriver, mais cette aide nous a déjà été donnée. C'est la grâce. C'est la grâce qui corrige, qui oriente, si je puis dire, notre liberté dans le bon sens et qui la guérit de son impuissance.
La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est la dernière phrase de votre ouvrage, c'est une citation de Saint-Irénée de Lyon. Rémi Braque, je vous remercie infiniment pour votre éclairage aujourd'hui sur cette question de la providence et aussi pour avoir parcouru avec vous tous les jalons de votre œuvre et de votre recherche philosophique. Merci.
C'est moi qui vous remercie.